Une différence qui se voit.
Ou pas.
Il existe quand même une différence majeure entre nous. Toi, quand tu entres dans une pièce, le fait que tu aies été adopté ne se voit pas.
C'est juste. Et d'ailleurs, lorsque j'étais plus jeune, je n'ai pas eu tout de suite à affronter le regard des autres. J'ai eu le temps de me poser toutes sortes de questions, en trouvant rarement les réponses, avant d'être confronté aux réactions diverses et variées.
Tu crois que c'était un avantage ?
Je n'en suis pas certain. Car pour beaucoup de gens, le fait de découvrir assez tard que j'étais fils adoptif changeait soudain l'image qu'ils avaient de moi, sans que je puisse alors comprendre pourquoi. C'était très déstabilisant. Du jour au lendemain, je sentais que la façon dont ils me voyaient s'était modifiée. Quelque chose dans leur regard, un non-dit. J'avais l'impression d'être jugé, presque condamné ou plaint, alors que je n'étais coupable ou victime de rien. Tout à coup, leur approche évoluait, alors que j'étais toujours le même. Une sorte de malaise s'insinuait dans des rapports jusque-là très simples. Cette donnée réveillait souvent une gêne en eux, trouvant parfois un écho dans leur propre vie. Mais quand tu es gamin, tu ne le sais pas et tu te prends ce décalage en pleine figure, en le vivant comme une remise en cause personnelle. Évidemment, je ne criais pas sur les toits que j'étais fils adoptif, mais un indice le révélait souvent. L'écart d'âge avec mes parents. Le temps qu'ils décident d'adopter, auquel s'est ajouté le délai pour accomplir les démarches longues et fastidieuses, a provoqué une différence importante. Ma mère avait 42 ans et mon père 43 lorsque je suis arrivé tout bébé chez eux. Le décalage était encore renforcé par le fait qu'à l'époque, on avait souvent des enfants bien plus jeunes que maintenant. À la sortie de l'école primaire, tout le monde prenait ma mère pour ma grand-mère. Et les premières questions sont venues.
Difficile.
J'étais surtout très énervé que l'on vieillisse mes parents. Je constatais la peine que la découverte de notre adoption provoquait chez maman. Elle n'a jamais vraiment assumé. En grandissant, j'ai pourtant essayé de la rassurer, mais je crois qu'elle n'a malheureusement pas réussi à dépasser une sorte de honte qu'elle sécrétait, un poison pour elle-même. On érige parfois soi-même les barrières qui nous enferment ou les épreuves qui nous épuisent. C'était son cas. Elle n'a pas eu la force de dépasser celle-là. Et toi, à quel âge as-tu commencé à penser que ta taille allait te poser un problème ?
Pour des raisons différentes, c'est aussi à l'adolescence que cela a été le plus compliqué, quand toutes les copines commençaient à flirter. Moi, je n'étais que la meilleure copine de tous les mecs, sans qu'aucun soit capable d'assumer ma différence. J'étais la bonne amie, mais pas celle qu'on embrasse dans le noir au cinéma. Forcément, un môme de 14 ans en pleine puberté se dérobe. Il a déjà du mal à savoir qui il est et ce qu'il vaut pour les autres, alors il essaie d'aller au plus facile. J'avais beau me dire qu'un jour viendrait où un garçon me découvrirait pour ce que je suis vraiment, je pleurais quand même dans mon lit. J'ai reçu mon premier baiser lorsque j'ai eu ma première aventure, à 20 ans.
À l'époque, as-tu réussi à en parler à quelqu'un ou as-tu vécu cela toute seule ?
Je crois qu'une de mes qualités, qui peut aussi être un défaut, je te l'accorde, c'est que je ne garde pas les choses pour moi. Je ne suis pas une taiseuse. Je devais avoir 15 ou 16 ans. J'avais des copains très proches au lycée. Mais ils draguaient la belle nana à qui ils n'avaient pas forcément beaucoup de choses à dire. Mais elle était normale, elle. À mes deux meilleurs amis, j'ai demandé pourquoi il ne se passait rien de sentimental avec moi. Ils m'ont répondu qu'ils ne voulaient pas que je souffre le jour où cela s'arrêterait. J'ai souvent entendu cette phrase. Ils ne voulaient pas me faire du mal lorsque la relation finirait. Officiellement, ils ne tentaient rien afin de me protéger. Mais je songeais en moi-même, avant de penser à me faire du mal, penser à me faire du bien. La même chose se passe avec les filles qui font rire. Les garçons se méfient en général des filles qui ont de l'humour, car elles sont souvent plus fortes à beaucoup de niveaux. N'ayant pas confiance en eux, ils préfèrent s'approcher des filles qui ne fonctionnent qu'aux hormones plutôt que de quelqu'un capable de les déchiffrer parfaitement. D'une façon ou d'une autre, se trouver exclu d'un jeu que tout le monde joue est forcément un peu douloureux. Lorsque nous partions en vacances l'été, j'avais des coups de cœur, comme toutes les copines. Nous vivions dans une petite cité de 3 bâtiments dans la banlieue de Lyon. Mes amies rentraient avec la photo de l'Espagnol ou du Hollandais avec qui elles avaient flirté dans leur camping. Et moi, Même si j'avais les photos de tout le monde, il ne s'était rien passé. C'est peut-être à ce moment-là que j'ai commencé à vivre par procuration, à imaginer ce que pourrait être ma vie, sans pour autant passer mon temps à me lamenter. Je me suis créée une sphère d'amitié, avec plein d'amis sûrs pour compenser l'absence de petits copains. Cela m'a toujours sauvée. Certains racontent que leurs amis se comptent sur les doigts d'une main. Moi, j'ai cette chance extrême d'être magnifiquement entourée.